Voltaire, Relation du bannissement des jésuites de la Chine. La Chine, autrefois entièrement ignorée, longtemps défigurée, ensuite à nos yeux et enfin mieux connue de nous que plusieurs provinces d'Europe, est l'empire le plus peuplé, le plus florissant et le plus antique de l'univers. On sait que, par le dernier dénombrement fait sous l'empereur Kangxi, dans les seules 15 provinces de la Chine proprement dites, on trouva 60 millions d'hommes capables d'aller à la guerre, en ne comptant ni les soldats vétérans, ni les vieillards au-dessus de 60 ans, ni les jeunes au-dessous de 20, ni les mandarins, ni les lettrés, et encore moins les femmes. À ce compte, il paraît difficile qu'il y ait moins de 150 millions d'âmes, ou soi-disant telles, à la Chine. Les revenus ordinaires de l'empereur sont 200 millions d'onces d'argent fin, ce qui revient à 1250 millions de la monnaie de France ou 125 millions de ducats d'or. Les forces de l'État consistent, nous dit-on, dans une milice d'environ 800 000 soldats, et l'empereur a 570 chevaux, 10 000 chevaux, soit pour monter les gens de guerre, soit pour les voyages de la cour, soit pour les courriers publics. On nous assure encore que cette vaste étendue de pays n'est point gouvernée despotiquement, mais par 6 tribunaux principaux qui servent de front à tous les journaux tribunaux inférieurs. La religion y est simple, et c'est une preuve incontestable de sa qualité et de son antiquité. Il n'y a pas plus de 4 000 ans que les empereurs de la Chine sont les premiers points forme de l'Empire. Ils adorent un Dieu unique. Ils lui offrent les prémices des champs qu'ils ont labourés de leurs mains. L'empereur Kangxi écrivit et fit graver dans le frontispice de son temple ses propres mots. Le Chang-ti est sans commencement et sans fin. Il a tout produit, il gouverne tout, il est infiniment bon et infiniment juste. Yunqing, fils et successeur de Tangyi, fit publier dans tout l'empire un édit qui commence par ces mots: Il y a entre le tien et l'homme une correspondance sûre, infaillible, par les récompenses et les châtiments. Cette religion de l'empereur, de tous les colaos, de tous les lettrés, est d'autant plus belle qu'elle n'est pas souillée par une superstition. Toute la sagesse du gouvernement n'a pu empêcher que les bonzes se soient introduits dans l'empire, de même que toute l'attention du maître d'hôtel ne peut empêcher que les rats ne se glissent dans les caves et dans les greniers. L'esprit de tolérance qui faisait le caractère de toutes les nations asiatiques laissa les bonzes séduire le peuple. Mais en s'emparant de la canaille, on les empêcha de gouverner. On les a traités comme on traite les charlatans. On les laisse débiter leur envié temps dans les places publiques. Mais ils adulent le peuple. S'ils le heurtent, l'affrontent, ils sont perdus. Les bons ont été tolérés et réprimée. L'Abancogni avait accueilli avec une bonté singulière les bons jésuites. Ceux-ci, à la faveur de quelques sphères sommaires, de baromètres, de thermomètres, des lunettes qu'ils avaient apportées d'Europe, obtinrent de Kangxi la tolérance publique de la religion chrétienne. On doit observer que cet empereur fut obligé de consulter les tribunaux et de solliciter lui-même et de dresser de sa main la requête des bons jésuites pour leur obtenir la permission d'exercer leur religion. Ce qui prouve évidemment que l'empereur n'est point despotique, comme tant d'autres sont insultés ou prétendus, et que les lois sont plus fortes que lui. Les querelles élevées entre les missionnaires rendirent bientôt la nouvelle secte odieuse. Les Chinois, qui sont gens sensés, furent étonnés et indignés que des bons d'Europe osassent établir dans leur empire des opinions dont eux-mêmes n'étaient pas d'accord. Les tribunaux présentèrent à l'empereur des mémoires contre tous ces bons d'Europe, et surtout contre les jésuites, ainsi que nous l'avons vu depuis par les parlements de France acquérir et ensuite ordonner l'abolition de cette société. Ces procès n'étaient pas encore jugés à la Chine lorsque l'empereur Kangxi mourut le 20 décembre 1722. Un de ses fils, nommé Yunqing, lui succéda. C'était un des meilleurs princes que Dieu ait jamais accordé aux hommes. Il avait toute la bonté de son père avec plus de fermeté et plus de justesse dans l'esprit. Dès qu'il fut sur le trône, il reçut de toutes les villes de l'Empire des requêtes contre les jésuites. On l'avertissait que ces bons, sous prétexte de religion, faisaient un commerce immense, qu'ils prêchaient une doctrine intolérante, qu'ils avaient été l'unique cause d'une guerre civile au Japon, dans laquelle il était péri plus de 400 000 âmes, qu'ils étaient les soldats et les espions d'un prêtre d'Occident réputé souverain de tous les royaumes de la terre, et que ce prêtre avait divisé le royaume de la Chine en évêchés, et qu'il avait rendu des sentences à Rome contre les anciens rites de la religion. Et enfin, si Rome ne répondait pas au plus tôt, ces entreprises ineptes et inouïes, une révolution était à craindre. L'empereur Yongqing, avant de se décider, voulut s'instruire par lui-même de l'étrange religion de ces bons. Il sut qu'il y en avait un, nommé le frère Rigolet, qui avait converti quelques enfants des crocheteurs et des lavandières du pays et du palais. Il ordonna qu'on le fît paraître devant lui. Ce frère Rigolet n'était pas un homme de cour, comme les frères Parnassien et Verbès. Il avait toute la simplicité et l'enthousiasme d'un persuadé. Il y a de ces gens-là dans toutes les sociétés religieuses. Ils sont nécessaires à leur ordre. On demandait un jour à Oliva, général des jésuites, comme il ne pouvait faire qu'il eût tant de sceaux dans une société qui passait pour éclairer, Il répondit, il nous faut des saints. Ainsi donc, Saint Rigolet comparut devant l'empereur de la Chine. Il était tout glorieux et ne se doutait pas qu'il eut l'honneur de baptiser l'empereur dans 2 jours au plus tard. Après qu'il eut fait les génuflexions ordinaires et frappé 9 fois la terre de son front, l'empereur lui fit apporter du thé, des biscuits et lui dit « Frère Rigolet, dites-moi en conscience ce que c'est que cette religion que vous prônez et que vous prêchez aux lavandières et aux crocheteurs de mon pays. » Frère Rigolet, Auguste souverain des 15 provinces anciennes de la Chine et des 42 provinces tartares, ma religion est la seule véritable. Comme me l'a dit mon préfet, le père Bouvet, qui le tenait de sa nourrice, les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Tartares, les Indiens, les Persans, les Turcs, les Arabes, les Africains et les Américains sont tous damnés. On ne peut faire à Dieu, on ne peut lui plaire que dans une partie de l'Europe. Et ma secte s'appelle la religion catholique, ce qui veut dire universelle. L'empereur. Fort bien, frère Rigolet. Vos sectes sont confinés dans un petit coin d'Europe. Et vous l'appelez universel. Apparemment que vous espérez de l'étendre dans tout l'univers. Sire, votre majesté a mis le doigt dessus. C'est comme nous l'entendons. Dès que nous sommes envoyés dans un pays par le révérend frère général, au nom du pape qui est l'essence Dieu en terre, nous catéchisons les esprits qui ne sont point encore pourvus par l'usage dangereux de penser. Les enfants du bas peuple étant les plus dignes de notre doctrine, nous commençons par eux. Ensuite, nous allons aux femmes. Et bientôt, elles nous donnent leur mari. Et dès que nous avons un nombre suffisant de prosélytes, nous devenons assez puissants pour forcer le souverain à gagner la vie éternelle en se faisant sujet du pape. L'empereur. On ne peut mieux faire rigoler. Les souverains sont obligés, mais montrez-moi un peu sur cette carte géographique où demeure votre pape. Frère Rigolet, sacrée majesté impériale, il demeure au bout du monde, dans un petit angle que vous voyez, et c'est de là qu'il donne ou qu'il sauve à son gré tous les rois de la terre. Il est vice-dieu, vice-changti, vice-tien. Il doit gouverner la terre au nom de Dieu. Et notre frère général doit gouverner sous lui. Mes compliments au vice-dieu et au frère général. Mais votre Dieu, qu'est-il? Dites-moi un peu de ses nouvelles. Notre Dieu n'a qu'il dans une écurie. Il y a quelque 1723 ans, entre un bœuf et un âne. Et 3 rois, qui étaient apparemment de votre pays, conduits par une étoile nouvelle, vinrent au plus vite l'adorer dans sa mangeoire. Vraiment, frère Rigolet? Oh, si j'avais été là, je n'aurais pas manqué de faire le 4e. Je le crois bien, sire. Mais si vous êtes curieux d'en faire un petit voyage, il ne tiendra qu'à vous de voir sa mère. Elle demeure ici, dans Ce petit coin que vous voyez sur le bord de la mer Adriatique, dans la même maison où elle accoucha de Dieu. Cette maison, la vérité, n'était pas d'abord dans cet état-là. Voici sur cette carte le lieu qu'elle occupait dans un petit village juif. Mais au bout de 1300 ans, les esprits célestes la transportèrent. Vous la voyez, la mère de Dieu n'est pas la vérité en chair et en os, mais en bois. C'est une statue que quelques-uns de nos frères pensent avoir été traitée et faite par le Dieu son fils, qui était un très bon charpentier. Un Dieu charpentier? Un Dieu né d'une femme? Oh, tout ce que vous me dites là est admirable. Oh, sire, elle n'était point femme, elle était fille. Il est vrai qu'elle était mariée et qu'elle avait eu deux autres enfants nommés Jacques, comme le disent de vieux évangiles. Elle n'était pas moins pucelle. Quoi? Elle était pucelle, elle avait des enfants? Vraiment, oui. C'est là le bon de l'affaire. Ce fut un Dieu qu'un enfant, une fille. Oh, là, je ne vous entends point. Vous disiez tout à l'heure qu'elle était mère de Dieu. Dieu coucha avec sa mère, alors pour naître ensuite d'elle. Vous y êtes, Sacrée Majesté. La grâce opère déjà. Vous y êtes, dis-je. Dieu se changea en pigeon pour faire un enfant, la femme d'un charpentier. Et cet enfant fut Dieu lui-même. Mais voilà donc deux dieux de comtesse et un charpentier et un pigeon. Frère Rigolet. Sans doute, sire, mais il y a encore un troisième qui est le père de ces deux-là, et que nous peignons toujours avec une barbe majestueuse. C'est ce Dieu-là qui ordonna au pigeon de faire un enfant à la charpentière, don d'acquis le dit charpentier. Mais au fond, ces trois dieux n'en font qu'un. Le père a engendré le fils avant qu'il fût au monde. Et le fils a été ensuite engendré par le pigeon. Et les pigeons procèdent du père et du fils. Alors vous voyez bien que le pigeon qui précède, le charpentier qui est né du pigeon et le père qui a engendré le fils du pigeon ne peuvent être qu'un seul Dieu. Et qu'un homme qui ne croit pas à cette histoire doit être brûlé dans ce monde-ci ou dans l'autre. Oh, mais cela est clair comme le jour, alors. Un dieu né dans une étable, il y a 1723 ans, entre un bœuf et un âne, un autre dieu dans un colombier, un troisième dieu de qui viennent les deux autres, qui n'est pas plus ancien qu'eux, malgré sa barbe blanche. Une mère pucelle, oh, il n'y a rien de plus simple et de plus sage. Et dites-moi un peu, frère Rigolet, si votre Dieu est né, il est sans doute mort. S'il est mort, Sacrée Majesté, je vous en réponds. Et là, pour vous faire plaisir, il déguisa si bien sa divinité qu'il se laissa fouetter et pendre malgré ses miracles. Mais aussi il ressuscita 2 jours après, sans que personne le vît, et se retourna avec au ciel, après avoir solennellement promis qu'il reviendrait incessamment dans une nuée avec une grande puissance une grande majesté, comme le dit dans son 21e chapitre Luc, le plus savant historien qui jamais ait été. Le malheur est qu'il ne revint point. Oh, vite, frère Rigolet, que je t'embrasse. Va. Oh, tu m'as fait une révolution dans mon empire. Mais ta religion est charmante. Tu épanouiras la rate de tous mes sujets. Mais il faut que tu me dises tout. Voilà un dieu, donc, né, fessé, perdu, pendu, enterré. Et avant lui, n'en avais-tu pas un autre, frère Rigolet? Oui, vraiment, il y en avait un dans le même petit pays. On l'appelait le Seigneur, tout court. Oh, celui-là ne se laissait pas pendre comme l'autre. C'était un dieu à qui il fallait pas jouer. Il s'avisa de prendre toute sa protection, une horde de voleurs et de meurtriers, en faveur de laquelle il égorgea un beau matin tous les bestiaux et tous les fils aînés des familles d'Égypte. Après quoi, il ordonna expressément à son cher peuple de voler tout ce qu'ils trouveraient sous leurs mains et de s'enfuir sans combattre, attendu qu'il était le dieu des armées. Il leur ouvrit ensuite le fond de la mer, suspendit les eaux à droite et à gauche pour les faire passer à pied sec, faute de bateau, et il les conduisit ensuite dans un désert, où ils moururent tous. Mais il eut grand soin de la seconde génération. C'est par elle qu'il fait tomber les murs des villes, au son d'un cornet à bouquin, et par le ministère d'une cabatière. C'est pour ces chers juifs qu'il s'arrêtait le soleil et la lune en plein midi, afin de leur donner le temps d'égorger leurs ennemis plus à leur aise. Il aimait tant ce cher peuple qui le rendait esclave des autres peuples, et qui les aime encore aujourd'hui. Mais voyez-vous, tout cela n'est qu'un type, une ombre, une figure, une prophétie, qui annonçait les aventures de notre Seigneur Jésus, Dieu juif, fils de Dieu le Père, fils de Marie, fils de Dieu Pigeon, qui procède de lui et de plus ayant un père putatif. Admirez, sacrée majesté, la profondeur de notre divine religion. Notre Dieu pendu était juif. Il a été prédit par tous les prophètes juifs. Votre sacrée majesté doit savoir que chez ce peuple divin, il y avait des hommes divins qui connaissaient l'avenir mieux que vous ne savez ce qui se passe dans Pékin. Ces gens-là n'avaient qu'à jouer de la harpe, et aussitôt, tous les futurs contingents se présentaient à leurs yeux. Un prophète nommé Isaïe coucha par l'ordre du Seigneur avec une femme. Il en eut un fils, et ce n'était notre Seigneur Jésus-Christ. Ce fils, ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, car il s'appelait Mansans Asbas, partageait vite les dépouilles. Un autre prophète nommé Ézéchiel se couchait sur le côté gauche 398 jours et 40 sur le côté droit. Et cela signifiait Jésus-Christ. Et si votre sacrée majesté me permet de dire, cet Ézéchiel mangeait de la merde sur son pain, comme il le fait dans un chapitre 4. Et cela signifiait Jésus-Christ. Un autre prophète nommé Osée couchait par ordre de Dieu avec une fille de Joie nommée Gomer, fille d'Ébraïm. Il en avait eu 3 enfants. Et cela signifiait non seulement Jésus-Christ, mais encore ses 2 frères aînés, Jacques le Majeur et Jacques le Mineur, selon l'interprétation des plus savants pères de notre Sainte Église. Un autre prophète nommé Jonas est avalé par un chien marin et demeure 3 jours et 3 nuits dans son ventre. C'est visiblement encore Jésus-Christ qui fut enterré 3 jours et 3 nuits, en retranchant 1 nuit et 2 jours pour faire le compte juste. Et les 2 sœurs, Oana et Oana, ouvrent leurs cuisses à tout venant, font bâtir un bordel et donnent la préférence à ceux qui ont la mémoire d'un âne ou d'un cheval, selon ses propres expressions de la Sainte Écriture. Cela signifie l'Église de Jésus-Christ. C'est ainsi que tout a été prédit dans les livres des Juifs. Votre sacrée majesté a été prédite. J'ai été prédit, moi, qui vous parle, car il est écrit, je les apporterai des extrémités de l'Orient. Et ses frères rigolaient, qui vient vous rappeler pour vous donner à Jésus-Christ un sauveur. Et dans quel temps ces belles prédictions ont-elles été faites? Oh, je ne sais pas bien précisément, mais je sais que les prophéties prouvent les miracles de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ces miracles de Jésus prouvent à leur tour les prophéties. C'est un argument auquel on n'a jamais répondu. Et c'est ce qui établira sans doute une secte dans toute la terre, si nous avons beaucoup de dévots, de soldats et d'argent comptant. L'empereur. Je veux le croire, oui, j'en ai déjà été averti. On va loin avec de l'argent et des prophéties. Mais tu ne m'as pas encore parlé des miracles de ton Dieu. Tu m'as dit seulement qu'il fut fessé et pendu. Frère rigolait. Eh, sire, n'est-ce pas là déjà un très grand miracle? Bon, il en a fait bien d'autres. Premièrement, le diable l'emporta sur une petite montagne, d'où l'on découvrait tous les royaumes de la terre, et lui dit: je te donnerai tous ces royaumes si tu veux m'adorer. Mais Dieu se moqua du diable. Ensuite, on pria notre Seigneur Jésus-Christ à des noces de village, et les garçons de noces étant ivres et manquant de vin, notre Seigneur Jésus-Christ changea l'eau en vin sur le champ, après avoir dit des injures à sa mère. Et quelque temps après, s'étant trouvé dans Gadara ou Kodara, au bord du petit lac de Génézareth, il rencontra des diables dans le corps de 2 possédés. Il les chassa au plus vite et les envoya dans un troupeau de 2 000 cochons qui allaient en grognant se jeter dans le lac et s'y noyer. Et ce qui concerne encore la grandeur et la vérité de ce miracle, c'est qu'il n'y avait point de cochons dans ce pays-là. Oh, je suis fâché, frère Rigolet, que ton Dieu ait fait un tel tour. Le maître des cochons ne dut pas trouver cela bon. Sais-tu bien que 2 000 cochons gras volent de l'argent? Voilà un homme ruiné, sans ressources. Je ne m'étonne plus qu'on ait pendu ton Dieu. Le possesseur des cochons dut présenter requête comme contre lui. Et je t'assure que Si dans mon pays, à Paris, Metcalfe venait faire un pareil miracle, il ne porterait pas loin. Tu me donnes une grande envie de voir les livres qu'écrivit le Seigneur Jésus. Et comment il s'y prit pour justifier des miracles d'une si étrange espèce? Oh, Sainte Majesté, il n'a jamais fait de livre. Il ne savait ni lire ni écrire. Ah bon, ah, voici qui est digne de tout le reste. Un législateur qui n'a jamais écrit aucune loi? Fi donc, sire, quand Dieu vient se faire pendre, il ne s'amuse pas de pareilles bagatelles. Il fait écrire ses secrétaires. Oh, il y en eut une quarantaine qui prirent la peine, 100 ans après, de mettre par écrit toutes ces vérités. Il est vrai qu'ils se contredisent tous, mais c'est dans cela même que la vérité consiste. Et dans ces 40 histoires, nous en avons à la fin gardé 4, qui sont précisément celles qui se contredisent le plus, afin que la vérité paraisse avec plus d'évidence. Tous ses disciples firent encore plus de miracles que lui. Nous en faisons encore tous les jours. Nous avons parmi nous le Dieu Saint François-Xavier, qui ressuscita 9 morts de conte fait dans l'Inde. Personne, à la vérité, n'a vu ces résurrections, mais nous avons célébré d'un bout du monde à l'autre. Nous avons été crus. Croyez-moi, sire, faites-vous jésuite. Et je vous suis caution que nous ferons imprimer la liste de vos miracles avant qu'il soit à 2 ans. Nous ferons un saint de vous. On fêtera votre fête à Rome. Et on vous apportera Saint Yongyang après votre mort. Oh, je ne suis pas pressé, frère Rigolet. Cela pourra venir avec le temps. Tout ce que je demande, c'est que je ne sois pas pendu comme ton Dieu l'a été. Car il semble que c'est acheter la divinité un peu cher. Ah, sire, mais c'est que vous ne savez pas encore la foi. Mais quand vous aurez été baptisé, vous serez enchanté d'être pendu pour l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Quel plaisir vous auriez à aller voir à la messe du pain et de manger. Comment, mort de ma vie, vous mangez votre Dieu, vous autres? Oui, sire, je le fais, je le mange. Oh, j'en ai préparé ce matin 4 douzaines, et je vais vous les chercher tout à l'heure. Si vous sachez, Majesté, si vous l'ordonnez, tu me feras grand plaisir, mon ami. Va-t'en vite chercher ton Dieu. Je vais en attendant faire ordonner à mes cuisiniers de te tenir prêt pour les cuire, les faire cuire. Et tu leur diras à quelle sauce il faut les mettre. J'imagine qu'un plat de Dieu est une chose excellente et que je n'aurais jamais fait meilleure chère. Sacrée Majesté, j'obéis à vos ordres suprêmes. Et je reviens dans le moment. Dieu soit béni. Ah, voilà un empereur dont je vais faire un chrétien, sur ma parole. Pendant que le frère Rigolet allait chercher son déjeuner, l'empereur resta avec un secrétaire d'État, Wang Tse, et tous deux étaient saisis de la plus grande surprise et de la plus vive indignation. Les autres jésuites, dit l'empereur, comme par le nain Verbès, Ferreira, Bouvet et les autres, ne m'avait jamais avoué aucune de ces abominables extravagances. Oh, je vois très bien que ces missionnaires sont des fripons, qui ont à leur suite des imbéciles. Les fripons sont aussi auprès de mon père. Ils ont réussi en faisant devant lui des expériences de physique qui l'amusaient. Et les imbéciles réussissent avec la populace. Ils sont persuadés et ils persuadent. Cela peut devenir très pernicieux. Je vois que les tribunaux ont une grande raison de présenter des requêtes contre ces perturbateurs du repos public. Dites-moi, je vous prie, vous qui avez étudié l'histoire de l'Europe, comment il a pu faire qu'une religion si absurde et blasphématoire se soit introduite chez tant de petites nations ? Le secrétaire d'État. Hélas, sire, tout comme la secte du Dieu faux s'est introduite dans votre empire par des charlatans qui ont séduit la populace. Votre Majesté ne pourrait croire quels effets prodigieux ont fait les charlatans d'Europe dans leur pays. Ce misérable qui vient de vous parler vous a lui-même avoué que c'est pareil après avoir enseigné à la canaille des dogmes qui sont faits pour elle. Elle la soulève ensuite contre le gouvernement. Ils ont détruit un grand empire qu'on appelait l'Empire romain, qui s'étendait d'Europe en Asie, et le sang a coulé pendant près de 14 siècles par les divisions de ces sycophantes qui ont voulu se rendre les maîtres de l'esprit des hommes. Ils furent d'abord à croire aux princes qui ne pouvaient régner sans les prêtres. Eh bien, ils s'élevèrent contre les princes. J'ai lu qu'ils détrônèrent un empereur nommé Débonnaire, un Henri IV, un Frédéric, dans 33, près de 33, et qu'ils en assassinèrent plus de 20. Si la sagesse du gouvernement chinois a contenu jusqu'ici les bonzes qui déshonore vos provinces, ne pourra jamais prévenir les maux que feraient les bonzes d'Europe. Ces gens-là ont un esprit 100 fois plus ardent, un plus violent enthousiasme et une fureur plus raisonnée dans leur démence que ne le fanatisme de tous les bonzes du Japon, de Siam et de tous ceux qu'on tolère à la Chine. Les sots prêchent parmi eux et les fripons intriguent. Ils subjuguent ces hommes par les femmes et les femmes par la confession. Maîtres des secrets de toutes les familles dont ils rendent compte à leurs supérieurs, ils sont bientôt les maîtres d'un État sans même paraître l'être encore. D'autant plus sûrs de parvenir à leur fin, qu'ils semblent n'en avoir aucune. Ils vont à la puissance par l'humanité, à la richesse par la pauvreté, et à la cruauté par la douceur. Vous vous souvenez bien, sire, de la fable des dragons qui métamorphosaient en moutons pour dévorer plus sûrement les hommes. Voilà leur caractère. Il n'y a jamais eu sur la terre des monstres plus dangereux, et Dieu n'a jamais eu d'ennemis plus funestes. L'empereur. Taisez-vous. Voici frère Rigolet qui arrive avec son déjeuner. Il est bon de se divertir un peu. Frère Rigolet arrivait en effet, tenant à la main une grande boîte de fer blanc qui ressemblait à une boîte de tabac. Voyons, lui dit l'empereur, ton Dieu qui est dans la boîte. Frigolet en tira aussitôt une douzaine de petits morceaux de pâte ronds et plats comme du papier. Ma foi, mon ami, lui dit l'empereur, si nous avons que cela à nous déjeuner, nous ferons très maigre chère. Un dieu, à mon sens, devrait être un peu plus dodu. Que veux-tu que je fasse de ces petits morceaux de corps? Sire, dit Rigolet, que votre majesté fasse seulement apporter une pêchée de vin rouge. Hé, vous verrez vos jeux. L'empereur lui demanda pourquoi il préférait le vin rouge au vin blanc, qui est meilleur à déjeuner. Rigolet lui répondit qu'il allait changer le vin en sang et qu'il était bien plus aisé de le faire du sang avec du vin rouge qu'avec du paillet. Sa Majesté trouva cette raison excellente et ordonna qu'on fît venir une bouteille de vin rouge. En attendant, il s'amusa à considérer les dieux que frère Rigolet avait apporté dans la poche de son sa culotte. Il fut tout étonné de trouver sur ces morceaux de pâte la figure empreinte d'un patibulaire et d'un pauvre diable qui était attaché. Eh, sire, lui, dit Rigolet, vous souvenez-vous pas que je vous ai dit que notre Dieu avait été pendu? Eh bien, nous gravons toujours sa potence sur ces petits pains que nous changeons en Dieu. Nous mettons partout des potences, dans nos temples, dans nos maisons, dans nos carrefours, dans nos grands chemins. Nous chantons Bonjour, mon espérance. Nous aimons Dieu, nous avalons Dieu avec la potence. Oh, c'est fort bien, dit l'empereur. Tout ce que je vous souhaite, c'est de ne pas finir comme lui. Cependant, on apporta la bouteille de vin rouge. Frère Rigolet la posa sur la table avec sa boîte de fer blanc et tirant de sa poche un livre tout gras, il le plaça à sa main droite, puis se tournant vers l'empereur, il lui dit « Sire, j'ai l'honneur d'être portier, lecteur, conjureur, acolyte, sous-diacre, diacre et prêtre. Notre Saint-Père, notre Pape, le grand Innocent III, dans son premier livre, Les Mystères de la Messe, a décidé que notre Dieu avait été portier. Quand il chassa à coups de fouet les bons marchands qui avaient la permission de vendre des tourterelles à ceux qui venaient sacrifier dans le temple, il fut lecteur. Quand, selon saint Luc, il prit le livre dans la synagogue, quoiqu'il ne sût ni lire ni écrire. Il fut conjureur quand il envoya les diables dans les cochons. Il fut acolyte parce que le prophète juif Jérémie avait dit « Je suis la lumière du monde » et que les acolytes portent des chandelles. Il fut sous-diacre quand il changea l'eau en vin, parce que le sous-diacre sert à table. Il fut diacre quand il nourrit 4 000 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants, avec 7 petits pains et quelques goujons dans le pays de Magellan, connu de toute la terre, selon saint Matthieu. Ou bien quand il nourrit 5 000 hommes avec 5 pains et 2 goujons pour El Biradar, comme le disait saint Luc. Enfin, il fut prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, quand il dit à ses disciples qu'il allait leur donner son corps à manger. Étant donc, prêtre, quand il dit à ses disciples, comme lui, je vais changer ses pains en Dieu. Chaque miette de ce pain sera un Dieu en corps et en âme. Vous croirez voir du pain, manger du pain, mais vous mangerez Dieu. Enfin, quoique le sang de ce Dieu soit dans le corps que j'aurai créé, avec des paroles, je changerai votre vin rouge dans le sang de ce Dieu même. Et pour surabondance de droits, je le boirai. Il ne tiendra qu'à vous, votre majesté, d'en faire autant. Je n'ai qu'à vous jeter de l'eau au visage. Je vous ferai ensuite portier, lecteur, conjureur, acolyte, sous-diacre, diacre et prêtre. Et vous ferez avec moi une chair divine. Aussitôt, voilà frère Rigolet, qui se met à prononcer les paroles en latin, avale 2 douzaines d'hosties, boit chopine, et dit grâce très dévotement. Mais mon cher ami, lui dit l'empereur, tu as mangé et bu ton Dieu. Et que deviendra-t-il quand tu auras besoin d'un pot de chambre ? Sire, dit frère Rigolet, il deviendra ce qu'il pourra, c'est son affaire. Quelques-uns de nos docteurs disent qu'on le rend à la garde-robe, d'autres qu'il s'échappe par d'insensibles transpirations. Quelques-uns prétendent qu'il s'en retourne au ciel. Pour moi, j'ai fait mon devoir de prêtre, ça me suffit. Et pourvu qu'après ce déjeuner, on m'en donne un bon dîner avec quelque argent pour ma peine, je suis content. Or ça, dit l'empereur à frère Rigolet, ce n'est pas tout, je sais qu'il y a aussi dans mon empire d'autres missionnaires qui ne sont pas jésuites et qu'on appelle dominicains, cordeliers, capucins. Dis-moi en conscience s'ils mangent Dieu comme toi. Ils les mangent, sire, dit le bonhomme, mais c'est pour leur condamnation. Ce sont tous des coquins, nos plus grands ennemis. Ils veulent nous couper l'herbe sous les pieds. Ils nous accusent sans cesse auprès de notre Saint-Père, le Pape. Votre Majesté ferait fort bien de les chasser tous et de ne conserver que les jésuites. Ce serait un vrai moyen de gagner la vie éternelle quand même vous ne seriez pas chrétien. L'empereur lui jura qui ne manquerait pas. Il fit donner quelques sous au frère Rigolet, qui courut sur le champ annoncer cette très bonne nouvelle à ses confrères. Le lendemain, l'empereur tint sa parole. Il fit assembler tous les missionnaires, soit ce qu'on appelle les séculiers, soit ce qu'on nomme très irrégulièrement réguliers ou prêtres de la propagande, ou vicaires apostoliques, évêques in partibus, prêtres des missions étrangères, capucins, cordeliers, dominicains, hiéronymites et jésuites. Et il en parla en ces termes, en présence des 300 colaos. La tolérance m'a toujours paru le premier lien des hommes et le premier devoir des souverains. S'il était dans le monde entier une religion qui eût pu s'arroger un droit exclusif, ce serait assurément la nôtre. Vous avouez tous que nous rendions à l'être suprême un culte pur et sans mélange, avant qu'aucun des pays où vous venez fût seulement connu de ses voisins, avant qu'aucune de vos contrées occidentales eut seulement l'usage de l'écriture. Vous n'existiez pas quand nous formions déjà un puissant empire. Notre antique religion, toujours inaltérable dans nos tribunaux, s'était corrompue chez le peuple. Nous avons souffert les bonzes de faux, les talapoins de Siam, les lamas de Tartarie, les sectaires de Hakoum. Et regardant tous les hommes comme nos frères, nous les avons jamais priés de s'être égarés. L'erreur n'est point un crime. Dieu n'est point offensé, qu'on adore d'une manière ridicule. Un père ne chasse point ses enfants qui le saluent en faisant mal la révérence. Pourvu qu'il soit ainsi respecté, aimé, il est satisfait. Les tribunaux de mon empire ne nous reprennent pas vos absurdités. Ils vous plaignent d'être infatués de tant de détestables ramas de fables que de folie humaine n'est jamais accumulée. Ils plaignent encore plus le malheureux usage que vous faites d'un peu de raison qui vous reste pour justifier ces fables. Mais ce qu'ils ne vous pardonnent pas, c'est de venir du bout du monde pour nous ôter la paix. Vous êtes des instruments aveugles de l'ambition d'un petit lama italien qui, après avoir détrôné quelques nègres, ses voisins, voudrait disposer des plus vastes empires de nos régions orientales. Nous savons que trop de maux horribles que vous avez causés au Japon. 12 religions y florissaient avant le commerce, sous les auspices d'un gouvernement sage et modéré. Une concorde fraternelle régnait entre ces 12 sectes. Vous parut et la discorde bouleversa le Japon. Le sang coula de tous côtés, et vous en fit autant à Siam et aux Maldives. Je dois préserver mon empire d'un fléau si dangereux. Je suis tolérant, et je vous chasse tous parce que vous êtes intolérants. Je vous chasse parce que, étant divisé entre vous et vous détestant les uns les autres, vous êtes prêts d'infecter mon peuple de poison qui nous dévore. Oh, je ne vous plongerai point dans les cachots comme vous faites languir en Europe ceux qui ne sont pas de votre opinion. Je suis encore plus éloigné de vous faire condamner au supplice que vous y envoyez en Europe ceux que vous nommez les hérétiques. Nous ne soutenons point ici notre religion par des bourreaux. Nous ne disputons point avec de tels arguments. Partez, partez ailleurs vos folies atroces, et puissiez-vous devenir sage. Les voitures qui vous doivent conduire à Macao sont prêtes. Je vous donne des habits, de l'argent. Des soldats veilleront ensuite à votre sûreté. Je ne veux pas que le peuple vous insulte. Allez, soyez dans votre robe un témoignage de justice et de ma clémence. Ils partirent, et le christianisme fut entièrement aboli à la Chine, ainsi qu'en Perse, en Tartarie, au Japon, dans l'Inde, dans la Turquie, dans toute l'Afrique. C'est grand dommage, mais voilà ce que c'est que d'être infaillible.